Dans le cadre du salon du livre d'expression populaire et du critique social, il y avait différents débats au théâtre à la médiathèque Palais Saint-Vaast le 1er mai à Arras. Entre autres, un débat intitulé « Aborigènes, Kanak et justice sociale ». Face à l'histoire de la colonisation aux obus policiers d'aujourd'hui, les peuples autochtones résistent par la création sous toutes ses formes. Barbara Glojewski, anthropologue, et Dennis Pouravoy, poète et slammeur, ont discuté avec le public. On vous propose des extraits de cet événement. On commence avec Barbara Glojewski, qui est spécialiste des aborigènes d'Australie. Elle évoque la déclaration du peuple autochtone.
Il y a 30 ans, il y a eu des représentants amérindiens d'Amérique du Nord, enfin aussi bien les États-Unis que le Canada, des Maoris de Nouvelle-Zélande en particulier, qui se sont réunis à l'ONU et qui ont commencé à travailler chaque année sur une déclaration des peuples autochtones. Aujourd'hui, on considère que dans le monde, ça représente 6% de la population dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un peuple autochtone ? Eh bien, c'est un peuple qui, historiquement, a été minorisé par la création d'un État colonial. Et donc, ce n'est pas forcément tous les peuples colonisés, mais ce sont des peuples qui autrefois étaient souverains chez eux sur leur terre, mais du fait que leur territoire a été inclus dans un territoire plus grand qui est devenu un État, eh bien, ils ont perdu souvent les droits sur leur terre. Et donc, en 30 ans, en se réunissant ainsi, ils ont, il y a eu de plus en plus de délégués de différents peuples. Il y a des peuples autochtones en Inde, il y a des peuples autochtones au Laos, en Thaïlande, il y en a en Sibérie, il y en a évidemment dans tout le Pacifique, notamment, mais ça c'est Denis nous en parlera, mais depuis quelques années, les Kanaks ont aussi rejoint le forum donc international de l'ONU pour s'auto-définir en tant qu'autochtones, puisque après les événements des années 80 où il y avait eu la lutte pour l'indépendance, etc., eh bien, ils ont vu qu'ils avaient des situations communes avec d'autres peuples à travers le monde, les Tahitiens aussi d'ailleurs, et que donc ils pouvaient essayer de se battre pour leurs droits en utilisant ce qui maintenant est devenu la déclaration des peuples autochtones. Elle a été signée il y a 3 ans à l'ONU, elle a été ratifiée par tous les États membres, certains se sont abstenus, et il n'y a eu que 4 refus exprimés, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors l'Australie a signé l'année dernière, puisque entre-temps, depuis, il y a eu un changement de gouvernement en Australie, c'est un gouvernement de droite, et donc il y a eu des élections il y a 2 ans, et c'est à nouveau le Parti travailliste qui est revenu au pouvoir, et donc une des premières choses que Kevin Rudd a fait, le Premier ministre d'Australie, ça a été d'accepter de signer cette déclaration des droits autochtones. Le Canada est en train de réfléchir, mais les États-Unis refusent absolument. Voilà, et la Nouvelle-Zélande aussi se demande s'ils ne vont pas le faire. Alors, l'intérêt de cette déclaration des peuples autochtones, qui définit donc des droits spécifiques pour ces peuples-là, notamment le droit à la souveraineté sur leur propre territoire, et dans certains pays ça veut dire le droit de pouvoir revendiquer les terres qui leur ont été donc enlevées par l'État en place, c'est qu'il y a une sorte de regard international à partir du moment où la déclaration est signée par l'État, et donc ils ont un recours extérieur pour pouvoir imposer certaines choses sur place. Et donc, après la signature, par exemple, en Australie, il y a eu le rapporteur général de l'ONU a été envoyé en Australie et a rencontré de très nombreux responsables d'organisations aborigènes, des associations de femmes, dans l'éducation, la santé, l'économie, tout ça, et a fait un rapport qu'on peut trouver en ligne sur Internet, qui est extrêmement critique vis-à-vis de la politique du gouvernement. Donc ils peuvent se servir aussi de ce rapport, puisque au regard tout de même, à partir du moment où un pays n'est pas une dictature, et bien pour eux c'est tout de même important de prendre en compte le fait qu'ils sont mis un petit peu au banc par rapport à leur manière de gérer la politique avec les aborigènes en Australie. Donc c'est un recours auquel on peut faire appel. Et quelle est la recommandation principale que le rapporteur de l'ONU a fait à l'écoute des aborigènes avec lesquels il a parlé, c'est que le gouvernement instaure et reconnaisse des partenariats avec les aborigènes, qu'ils soient ou non en organisation, hein, parce qu'il n'y a pas un parti aborigène politique, il n'y a pas une seule organisation qui les représente, il y a plein d'organisations différentes, mais c'est accepter le principe que les gens veulent être acteurs de leur vie, ils veulent décider pour eux-mêmes, et non pas être soumis à ce que le gouvernement décide comme s'ils étaient des enfants, de manière paternaliste et protectionniste.
Denis Pourawa est poète et slammer originaire de Kanaky, qui est la Nouvelle-Calédonie, un archipel d'Océanie situé dans l'océan Pacifique, à 1050 km à l'est de l'Australie et 2000 km au nord de la Nouvelle-Zélande. Il nous parle de sa culture. Malheureusement, la qualité du son n'est pas très bonne. On vous demande de nous en excuser.
On ne s'est jamais posé la question du racisme, de la haine. On ignore tout ça. On ne connaît pas c'est quoi la haine. On a appris la haine parce que c'était un mot français. Et on a compris ce que la haine voulait dire. Mais chez nous, ça n'est pas la haine. Le mot étranger, pour nous, n'existe pas dans nos langues. On ne nomme pas quelqu'un un étranger. On dit c'est quelqu'un qui vient de quelque part. Parce qu'on sait que cette personne est rattachée à une histoire. Et qu'elle a un papa, une maman comme moi, et des grands-pères et des grands-mères. C'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel comme ça, et puis... Elle est rattachée à quelque part. Et c'est pour ça que pour nous, l'étranger, pour nous, n'a jamais été un étranger. Il a toujours été accueilli. James Cook, le premier anglais qui est arrivé en Nouvelle-Calédonie, on l'a pas bouffé, comme c'est raconté dans les livres, on est des sauvages, des cannibales, on a bouffé tout le monde. James Cook, il est arrivé, on l'a accueilli. On l'a confronté à la réalité des mythes des anciens, en tout cas des diables, des dieux, et, comme c'est raconté dans les livres. Mais pour nous, c'est autre chose. On accueille celui qui vient, parce que ça a toujours été comme ça. Nous, le peuple Kanak, on n'est pas un peuple de résistance, on n'est pas des résistants. On est des gens qui vivent la vie, on n'a jamais été en conflit avec la vie. On est un peuple d'expression plutôt, on n'est pas en résistance. Et on nous a mis pas mal d'histoires sur le dos. Par exemple, nous, la Nouvelle-Calédonie, on est l'un des l'île du Pacifique en tout cas, où au mètre carré, on a une richesse incroyable en ce qui concerne les pétroglyphes. On est une petite île du Pacifique, on n'en parle pas du tout, mais c'est une richesse de notre pays. De même que les poteries Lapita. Ce sont nos écritures, nos formes d'écriture. Et la gravure sur bambou. Et en tout cas, on nous a effacé tout ça. On nous a dit que non, en fait, ça ne vous appartient pas. Vous êtes ici, mais ça ne vous appartient pas. Ah bon ? On nous a raconté notre propre histoire. Et nous, ma génération, on a grandi avec ça. Heureusement que j'ai grandi aussi parmi mes anciens, qui j'ai pu en tout cas recevoir des histoires, des contes qui me font, qui font référence à l'histoire des anciens et tout. Mémoire orale, transmission orale, on est de peuple oral, mais aussi d'écriture, parce qu'on a ces écritures-là. On nous a fait croire qu'on n'était pas des peuples d'écriture, mais on est des peuples d'écriture aussi, à notre manière. On a perdu tous nos repères, tous nos repères. Donc moi, dans mon écriture, dans ma poésie, je tente, dans certains de mes poèmes, je recrée mon univers, mon environnement. C'est-à-dire que je suis dans cette recherche-là aussi, parce que j'ai perdu beaucoup. Par rapport à ce que j'avais des anciens, j'ai retenu ce que je pouvais retenir et aujourd'hui je la, comment dire, reformule peut-être et je crée un nouvel univers. Je théorise, d'une certaine manière je le technétise aussi, je le rends technique parce que je l'approfondis. Et la poésie pour moi ça a été en tout cas la réponse à comment tenter de pousser ma réflexion et de tenter de traduire la profondeur, tenter de traduire la profondeur qu'avaient justement les anciens dans ce qu'ils ont développé, dans leur intelligence, que nous avons nous encore, peut-être encore, mais qu'on a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Denis Pourawa présente également un extrait de sa poésie.
C'est aussi un hommage justement à tous les peuples, les peuples autochtones et les peuples en général, parce que nous sommes tous autochtones en fait, on est tous rattachés à la terre. Flair au front et sueur aux ombres, je participe à l'imparfait du suffrage universel. Les branches torsadées de mon rêve architecturel résinent mon héritage d'une rive de mort fine ancienne. Respire dans mes yeux cette étincelle du verbe. fertile d'une césarienne, le réceptacle de la chute aux frissons symboliques de l'ivresse nocturne, l'œuvre qui accorde l'espace et le temps sans urne, sans jour et sans ombre, et gouverne ma pirogue dans ma voilure en convocation. Se hisse le décor à l'endroit et à l'envers, mon reflet flaire le monde. Et l'éveil qui tarde à disparaître, l'étape vertigineuse, la décisive réinvention, captive la toile dilatée d'une élaboration à tisser, la famine spirituelle verte de la langue hérissée du dernier peuple d'Amazonie chante la louange éternelle, l'étau ailé des cigales bleuies du mythique Pacifique, la métamorphose prodigieuse prolifère du serpent arc-en-ciel aborigène, la parade nuptiale des lucioles des Indiens d'Amérique, la pulsation du feu maya et aztèque, le glissement du temps furtif du glaive celtique, l'assaut onirique à l'universel des danses africaines, la fourche de l'histoire s'est transmise, toile, communicative, et disciple du verbe vert en vertige. Que l'abeille de l'été butine et que le ver de terre laboure, les peuples verbes premiers de l'étape vertigineuse s'entendent. Et il faut s'y attendre d'usage, une pluie d'émotions et ton noir, moisie de voix en larmes d'une beauté singulière, nous le savons. Nos attitudes capricieuses, nos obsessions chroniques à huis clos, nos humeurs sur une autoroute balisée et codifiée, quand notre inconscient sculpte des liaisons éphémères avec le présent et étouffe les prières au silencieux des peuples en voie de disparition.
C'était Denis Pourvoy et Barbara Glojewski qui ont animé un débat sur les aborigènes, les Kanaks et la justice sociale le 1er mai à la médiathèque Palais Saint-Vaast, dans le cadre du Salon du livre d'expression populaire et du critique sociale à Arras.